dans l'épître aux Galates. C'est le chapitre 1, à partir de verset 11. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus, de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que j'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Toutes les épîtres de Paul sont des lettres personnelles, écrites pour répondre à des situations particulières. Ce ne sont pas des traités théologiques ou philosophiques. Il ne faut pas imaginer Paul en train de, à son bureau, réfléchissant à chaque mot et à la structure de ses phrases et ses thèses, mais plutôt à l'apôtre qui, debout, était en train de dicter ses pensées et le message qu'il veut transmettre à un groupe de personnes, dans un contexte où tout ce qu'il dit est à vif et noté par un secrétaire. Il vidait son cœur et déversait ses émotions dans ses enseignements. Et c'est dans ces lettres que nous apprenons tellement du caractère de Paul et de sa passion pour Jésus et pour les gens. Quelqu'un dit que la lettre aux Galates est une épée scintillante dans les mains d'un épéiste, car Paul était attaqué et il défendait avec vigueur son appel et son ministère. Il y avait ceux dans l'église de Galates qui mettaient en doute son ministère d'apôtre. C'est pour ça qu'il parle dans ces termes-là. Il décrit sa vie pour témoigner de l'œuvre de Dieu là-dedans. Alors Paul, déjà avant ce passage donc, dans l'épître, il a fait savoir qu'il était sûr de son appel, fier de sa vocation, car passionné de Jésus. Donc une vie consacrée au témoignage de l'amour du Christ. Il était sûr aussi de la fondation de son espérance et de son appel, c'est-à-dire la résurrection de Jésus, de la mort. Il était sûr du soutien de la communauté Ce n'est pas un loup solitaire, son appel vient directement de Dieu, il le souligne là maintenant, mais c'est le contexte de l'attaque qu'il parle comme ça. Il confirmait par le corps de Christ, ses frères et sœurs qui reconnaissent et apprécient l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il était sûr aussi de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans sa vie et dans toute l'œuvre de Dieu en Christ. Il y a toujours deux notions dans ce mot de grâce. Hein, il y a toujours la notion de beauté, d'élégance, mais il y a aussi l'idée de générosité non méritée, un don dont nous ne pouvons jamais être dignes de recevoir, que nous ne pouvons pas mériter, offert par Dieu dans son amour. Donc il fait un lien très fort entre cette grâce, ce don non mérité et l'appel de Dieu fort sur sa vie. Par conséquent, c'est vrai pour nous tous aussi. Maintenant, il met l'accent sur la source de son appel, c'est-à-dire Dieu lui-même, en versets 11 et 12. Je sais que Paul dit clairement qu'il n'y avait pas d'homme intermédiaire dans sa conversion et que ce n'était que par la révélation directe de Dieu qu'il a entendu l'évangile. Nous connaissons tous l'histoire. Mais cela ne veut pas dire que c'est toujours comme ça. Il exhorte quand même, dans d'autres contextes, tous à être prêts à témoigner de la bonne nouvelle. Il nous exhorte à être prêts, quand nous sommes débiteurs, tous, de l'évangile. Au Romains, il dit donc, la foi née du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Il se considérait comme débiteur à tous dans l'annonce de l'évangile. Si l'Église, tout au long de son histoire, avait refusé de participer à l'annonce de l'évangile, cette histoire aurait été très courte. Notre présence sur terre est justement pour être témoin du Christ, par nos paroles, ainsi que nos actes. Sa référence à lui-même est pour montrer que cette vérité, c'est-à-dire l'appel de Dieu, est pour nous tous. Nous, au contraire, Pierre dit, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres par sa merveilleuse lumière. Et Paul aux Éphésiens dit, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Son ouvrage, le mot poema, d'où vient le mot poème? C'est un mot qui évoque la notion de création, de création magnifique, artistique. Nous sommes les poèmes de Dieu pour parler aux hommes et aux femmes de la grâce de Dieu. L'appel de Dieu, la vocation de Dieu n'est pas réservée pour les missionnaires et les pasteurs et les prêtres. Le sens de vocation, quel que soit le domaine d'activité, que ce soit l'évangile en tant que pasteur, un missionnaire, que ce soit des banquiers, des mécaniques, des scientifiques, des artistes, nous avons tous, en tant que chrétien, des appels, des vocations, d'être là. Le sens de vocation, quel que soit le domaine d'activité, nous donne une prise de conscience de notre responsabilité et l'humilité qui en découle. Une liberté de se réjouir et de progresser dans ces dons que Dieu nous a accordés. L'assurance de faire partie de cette vaste opération qui est le plan, la stratégie de Dieu dans ce monde. Vu comme cela, même les moindres tâches se présentent comme étant de grande valeur. Certainement, c'est le cas devant le Père. Donc, il était sûr de son appel et la source de son appel. Il nous encourage à en être sûr aussi. Deuxièmement, il avait été un fanatique de la loi, intégriste, si vous voulez, un terroriste de la loi. Mais il est devenu un passionné de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous donne, entre autres, le pardon. Pour dire aux Romains, tous sont péchés, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Et Timothée dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. D'ailleurs, le titre de tout ce que je dis là, j'ai mis un titre, c'est « Sauver pour servir ». Sauver pour servir. On y revient. Cette grâce, il nous l'a donnée en toute éternité en Jésus-Christ, dit Timothée. Paul a tellement reçu dans la grâce de Dieu, il était tellement reconnaissant, et ça lui a fait comprendre l'importance de cette vérité. Voilà pourquoi le thème de la grâce de Dieu est si cher à Paul et pourquoi il en parle si souvent. Nous ferons bien de le suivre dans cette voie. La voie de la découverte, de la profondeur de la grâce de Dieu, notre Père Céleste. Il y a la liberté de la grâce de Dieu. Pour dire encore aux Romains, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Je pense que le plus grand obstacle à la grâce de Dieu, c'est l'orgueil. Qu'est-ce qui nous empêche de dire merci, à part ça ? L'orgueil est insidieux même, au point où nous pouvons être tentés de penser que nous avons reçu tant de grâce parce que nous l'avons mérité. Or que le fait de recevoir sa grâce, de pouvoir dire merci, est une raison de nous voir comme meilleurs d'autres qui ne l'ont pas fait, qui ne l'ont pas reçu. Et oui, nous devons creuser cette mine d'or qui est la grâce de Dieu. Car il y a tellement de richesses à trouver. Il y a des années, j'étais dans une interview à la radio, une radio chrétienne à Paris, et la dame dit, alors c'est quoi un chrétien ? L'idée m'est venue comme ça, c'est quelqu'un qui sait dire merci. La reconnaissance et l'humilité qui en fait partie, Ça règle tellement de choses. Là, on oublie beaucoup. On oublie ce qui est négatif et on est reconnaissant pour ce que nous avons, ce que nous sommes. Et ça change tout. Alors, la liberté de la grâce de Dieu, la grâce de servir. Pour terminer. J'ai lu récemment l'histoire d'un dirigeant d'orchestre allemand, un homme très très haut placé, très bon artiste, donc qui aurait pu faire beaucoup de sous et être très célèbre dans son travail. Mais il a opté pour travailler avec des personnes handicapées. Et en fait, il est célèbre pour ça, si tu veux. Il travaille qu'avec des chorales de personnes handicapées, pour les faire chanter, pour mettre en valeur leur vie, leur personne, leurs dons. Il y a un autre médecin très célèbre, Dr. Paul Brandt, aussi chirurgien brillant, américain, qui a travaillé surtout avec les lèpres aux États-Unis, mais en Inde aussi. Un homme dont les personnes des lépreux ont dit on était tellement reconnaissants de rencontrer cet homme et sa femme que nous sommes reconnaissants d'avoir été frappés par cette maladie. Parce que nous avons rencontré Dr. Paul Brandt. Et puis on connaît tous Albert Schweitzer, ce grand musicien, qui dit, voilà, le monde n'a pas besoin de ma musique. Mais ces gens-là, les pauvres, en Afrique, si. Voilà, sauver pour servir. Pierre dit, chacun de vous a reçu de Dieu un don, de la grâce particulière, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Donc Paul avait été le persécuteur archétype de l'Église, si on veut, et puis après sa conversion, il est devenu la référence pour tous ceux qui sont missionnaires, évangéliste, témoin de la foi en Christ. Il voulait au départ détruire l'Église naissante, et puis il avait la passion de voir l'Église partout dans le monde. Ce n'est que Dieu qui peut faire ce genre de transformation en l'homme. Alors, cependant, ce n'est pas seulement pour défendre son ministère à lui qu'il a écrit tout ça, mais c'est pour montrer que cette vérité s'applique à nous tous. Il n'y a pas d'hasard. Tout est planifié par le Père. Il était appelé pour une tâche, une mission, pour le service, pas pour la gloire. Et nous aussi. On est appelé sauvé pour servir. Pour le confort. Sauver pour servir. Prions. Père, merci pour ce rappel de ta parole, du privilège que nous avons dans notre vie en toi. Merci pour le pardon, la liberté, la nouvelle vie que tu as mis en nous par Jésus-Christ. Merci pour l'espérance que nous avons en regardant devant nous, autour de nous. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.